La barge russe, tous les jours, à 14h, avec Johnny Tuvebeck. Ok, barge russe 517, la volonté de savoir. Alors, comme on peut le comprendre, la volonté de savoir n'appartient pas à la société, mais au tout à chacun. À savoir que le tout à chacun, ce ne sont pas que les êtres humains, ce appartient plutôt aux êtres vivants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Paul, qui a lui réalisé toute une étude justement sur le côté invisible, la présence des animaux par rapport au côté invisible. Donc, à présent, Paul, j'espère que vous allez bien et c'est à vous de reprendre, s'il vous plaît.
Oui, je vous remercie. Je rappelle d'abord que nous avons fait ensemble de nombreuses émissions sur les objets volants, hein, sur les ovnis.
Ouais.
Depuis 2011.
Ouais, c'est vrai, on a fait... ouais, c'est sûr. C'est...
Et donc, on peut déjà dire que les objets volants sont une présence incontestable de l'invisible.
Oui, comme on a pu, oui, ça je suis complètement d'accord avec vous, oui, bien sûr.
Maintenant, le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est celui de l'utilisation, ou plutôt de l'illustration par l'utilisation ou l'illustration des par les animaux de l'invisible.
C'est ça.
Et... C'est-à-dire comment les animaux vont représenter le message ou vont colporter en quelque sorte le message de l'invisible. Hein? J'aurai donc trois récits qui vont illustrer cette affirmation.
Ouais, mais c'est même cette affirmation, cette généralisation, j'avais ça en tête, des animaux justement qui sont qui ont bon, on le dit tout le temps, l'instinct des animaux, bah, des chiens par exemple, vous n'allez pas parler de chiens, mais c'est quand même fou. Donc je pense aux personnes qui ne croient absolument pas aux objets volants, à toutes ces présences dont on a pu parler à toutes les reprises où on a fait des échanges téléphoniques qui sont passés à la radio et même en hors radio. J'espère, oui, que par votre intervention, par rapport aux animaux, ça peut, cette fois, on ne parle pas d'objets volants, mais on parle des animaux qui sont peut-être, encore une fois, reliés.
Ils vont servir de... L'invisible va se servir d'eux comme fil conducteur de son message. En gros, c'est ça.
D'accord.
Et donc, bon, on va laisser de côté tout le bestiaire sacré mondial.
Oui.
Ou alors, pratiquement tous les animaux, les mammifères, les poissons, les oiseaux sont représentés.
Mmh.
Je prendrai un seul exemple. L'aigle des Aztèques. Aux Aztèques, l'endroit où sera construit Mexico, par exemple.
Oui.
C'est bon. Et puis, des exemples comme ça, il y en a des milliers.
Oui, ça oui.
Bon. Donc, je vais aborder les récits
dont on a parlé, oui.
Dont je vous ai parlé. Et le premier concerne l'animal central, plutôt, de ces récits, ce sera un lapin.
Mmh.
Un lapin, et on va voir exactement quel est le message contenu dans les récits.
D'accord.
Ce ne sont pas des récits de faits réels, ce sont des rêves.
D'accord.
Mais des rêves ont un caractère prémonitoire.
Ouais, et
le lapin se trouve au centre de ses rêves.
Et après, ces rêves sont selon votre interprétation. Ça aussi, il faut peut-être faut le préciser.
Oui.
Oui. Après, bien sûr que moi, je suis. C'est la meilleure interprétation est celui est celle à qui le rêve arrive. Bien sûr, c'est pas oui, très bien, mais je comprends. Enfin, oui, j'espère que tout le monde comprend d'ailleurs.
Donc, je vais faire une petite digression pour présenter le personnage, la lapine, hein,
oui.
le lapin.
D'accord.
Si vous voulez. Donc, j'avais accepté de m'occuper d'une toute jeune lapine.
Mm-hmm.
Dont personne ne voulait plus parce que, disons, elle prenait le temps sur d'autres tâches, etc. Bon, s'en occuper devenait une charge.
Oui, hein, d'accord.
En gros, c'est ça.
Mm-hmm.
Et puis, je suis venu la voir, et en la voyant, ça a été ce qu'on pourrait appeler un coup de foudre. Et donc, j'ai accepté de la prendre en charge.
Okay.
De m'en occuper seul et de prendre la responsabilité de cette charge-là. Bon. Alors, ça a commencé de bonne heure, ces charges oniriques. Hein, parce que le soir même, pendant la nuit, j'ai rêvé qu'une dame en bleu, une femme brune avec cheveux ondulés, et tout habillé de bleu, s'adressait à moi et disait, en parlant de la lapine, le grand amour.
Ah oui.
Et alors, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas prendre le grand amour au sens traditionnel, c'est-à-dire... mais, avec ce que je vais vous conter, c'est plutôt le grand amour de l'invisible, le grand amour du ciel.
D'accord.
Hein? Alors, donc, je vais commencer par le premier rêve, et je préviens tout de suite que ce n'est pas joyeux, c'est plutôt des rêves à caractère dramatique, hein, comme on va le voir.
Ok, on vous écoute.
Alors, je dois faire aussi une petite digression concernant l'environnement.
Mmh.
Elle était donc chez une maîtresse de maison. C'est un quartier où il y a des maisons individuelles,
mmh,
entourées de grands jardins.
D'accord.
Hein, donc ça, c'est très important.
Mmh.
Et il y a deux pelouses. C'est une à l'entrée de la maison, hein. Enfin, on arrive de la rue, on ouvre une grille, et puis il y a immédiatement une pelouse qui va jusqu'au mur d'enceinte de la maison. Hein. Ça va?
Oui, d'accord, très bien.
Bon. Mais ce qui est important, c'est que de cette petite pelouse part une allée bordée d'arbres, de petits arbres qui, à la belle saison, forme comme un tunnel.
D'accord.
Et cette allée va jusqu'à un deuxième petit lopin de pelouse, hein,
mm-hmm,
où il y a un arbre, un laurier, et où la lapine et la lapine jouaient entre ces deux pelouses dans la journée. Voilà, en gros, c'est ça.
Ok.
Et le récit démarre. Nous sommes le 24 juillet 2013. Alors, ce n'est pas n'importe quelle date, c'est à la veille de la fête de Saint-Jacques le Majeur,
mm-hmm,
enterré à Compostelle.
Ah, d'accord, ok.
Le tombeau est à Compostelle, et qui est un lieu de pèlerinage qui draine tous les pèlerins d'Europe.
Hein, oui.
Bon. Donc, le décor est planté, et qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, j'avais pris l'habitude d'imposer à cette lapine une vitrée, très stricte. comme je l'ai dit, comme c'est une maison particulière entourée de d'autres maisons particulières avec des jardins,
ouais.
Il y a énormément de faune dangereuse pour elle. Hein.
Ok. Ah, oui.
Donc j'avais pris l'habitude de l'enfermer le soir dans un petit débarras où elle était parfaitement en sécurité jusqu'au matin.
Mmh.
Parce que le danger pour les lapins vient à la fois de la terre et du ciel. Hein.
D'accord.
Donc je viens au rêve.
Ok.
Le soir, donc, la date est importante, du 24-07, hein, la veille de la fête de Saint-Jean.
Le grand
Saint-Jacques, le majeur.
Le majeur, oui.
J'enferme donc ma lapine pour qu'elle passe une nuit sécurisée.
D'accord.
Et là-dessus, je rentre chez moi, et puis je passe la soirée normalement, et je vais me coucher. Et en pleine nuit, je fais ce rêve absolument... étonnant ou plutôt déconcertant, c'est-à-dire donc je reprends la topographie, hein, je vous ai dit, de la petite pelouse près de la grille jusqu'au laurier, hein,
mmh.
Il y a une allée qui forme en été en haut à la
baie. Ouais, un tunnel.
Un tunnel. Bon. Alors le rêve commence, je suis près du laurier, la lapine est à côté de moi et sans raison, elle démarre à toute vitesse, prend le chemin dans l'allée.
Oui, d'accord.
Pour emprunter l'allée. Et elle n'a pas fait 4 mètres que, écoutez bien, son train arrière chasse, c'est-à-dire que sa patte, si on se met à sa place, sa patte arrière passe sous son ventre et elle fait un ou deux tonneaux jusqu'au bord de la haie.
Ok.
Ok.
Mm-hmm. Bon.
Et c'est tout.
D'accord.
Mais seulement, je me réveille en pleine nuit après ce rêve et je suis pris d'une inquiétude et d'une angoisse absolument disproportionnée.
Oui, d'accord, je comprends.
Bon. Finalement, je me rassure, je me dis, elle est enfermée, elle est en sécurité,
mmh.
Et c'est de ma part irraisonné.
Oui.
Irraisonné. Bon. Le lendemain matin, j'étais toujours un petit peu quand même secoué, je mets la radio. Et là, j'apprends que le convoi de pèlerins en route pour Compostelle a déraillé.
Waouh, là ouais, c'est génial. Hein.
De la fête de Saint-Jacques le Majeur.
C'est vrai que c'est génial ça comme.
Attendez, il y a une suite. J'allume la télévision, je mets la télévision, et quelle était l'image qu'on nous passait en boucle? C'était celle du dernier wagon qui reproduisait exactement ce que la lapine avait fait, c'est-à-dire le train arrière du wagon chasse. Ouais. Les roues quittent les rails et ils basculent en roulant sur le côté, sur le ballast. Voilà.
Ouais, c'est carrément prémonitoire parce que ça arrive la veille, comme vous dites, la veille de.
Oui, ah ben c'est là le matin nous étions, c'était la fête de Saint-Jacques le Majeur.
Ouais.
Mais il y a autre chose. Il y a. Je dirais presque des caractéristiques mythologiques dans cet accident, c'est-à-dire que nous sommes en période de canicule entre le 23 juillet et le 22 août.
Hein. Oui, ok.
Poursuit Orion qui a toujours à ses côtés un lièvre. quelque sorte la jonction entre le rêve et son interprétation aussi.
Oui. Mais après, le lièvre et le lapin, c'est pas la même chose. Mais poursuit Orion. Orion, ça représente quoi?
C'est-à-dire que c'est comme si dans le cosmos, à cette période, on se reproduisait ce qu'on voit, ce qu'on voyait autrefois, ou qu'on voit encore peut-être aujourd'hui, je ne sais plus.
Oui.
Un synodrome.
Ah oui. Ah oui, donc le lévrier. Oui, les courses de lévrier, oui. Oui.
Et donc, c'est cette poursuite qui produirait, hein, en quelque sorte, oui, les canicules. Hein.
Mm.
C'est-à-dire, nous sommes, c'est une période de l'année où règne le bruit et la fureur. Hein.
Ah ouais, et le lévrier essayait d'attraper le lièvre, hein, d'accord.
Dorion.
Mmh.
Et la canicule. Alors, bon, je ne vais pas me lancer dans l'explication pour la raison pour laquelle on sait que le mécanicien du convoi n'a pas maîtrisé la vitesse de son train. Hein, qu'il a traversé un tunnel et c'est dans le tunnel que le wagon a basculé.
Ouais.
Comme à l'entrée du tunnel, ma lapine avait roulé. Le côté.
En tout cas, ce qui me tient vraiment à cœur de dire aux auditeurs, c'est que je peux vous dire ou Paul peut vous dire, là en l'occurrence c'est lui, faire attention aux signes, car les signes veulent tous dire quelque chose. Mais là, c'est un exemple particulier d'un rêve prémonitoire. Mais Paul dans ce cas n'avait aucune chance de l'interpréter à sa juste valeur. Elle ne pouvait pas appeler le pilote du train la veille pour lui dire « tu vas avoir un accident à tel endroit ». Mais c'est aussi la télépathie dont je parlais il y a quelques émissions.
Voilà.
On voit quelque chose, mais c'est pas, on ne va pas savoir exactement ce que l'autre va penser. Ce n'est pas des films d'Hollywood, quoi.
Voilà.
En tout cas, c'était... Ouais. Très bien.
Cet accident qui a... Enfin bon... Ce rêve qui, à sa façon, illustre le terrible accident de Compostelle, parce que ce fut terrible, hein, bon, a une valeur à la fois prémonitoire, mais aussi une valeur morale.
Mmh, oui.
C'est-à-dire que moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est un appel à la sagesse, hein, bon, c'est un appel à la sagesse, c'est-à-dire à ne pas se laisser emporter par ses passions, par ses... Mmh. Mais il faudrait pour ça réexaminer toutes les conditions dans lesquelles l'accident a eu lieu.
Oui, bien sûr. Après, il faut rentrer plus
tard. Ce qui importe, c'est que c'était un... On allait, ces pauvres pèlerins, là, allaient méditer, prier Saint-Jacques, hein, et le majeur.
Ouais.
Alors, si je peux me permettre en passant... Les personnes qui seraient intéressées par la légende de Saint-Jacques de Compostelle, il y a un excellent petit livre de Louis Charpentier qui s'appelle Les Jacques. Hein.
D'accord.
Donc, où toute la légende de Saint-Jacques le Majeur est racontée, et puis aussi tout ce qui concerne cette région de Galice, etc. etc. Bon, mais pour en revenir à notre sujet.
Oui, revenons à notre sujet, oui.
Là, le lapin m'a servi en quelque sorte dans mon rêve de fil conducteur.
Mmh.
Et on disait que l'invisible se servait comme ça de symboles, d'images pour
Ouais. Contre nous-mêmes, en fait.
Voilà.
Ouais. Ouais, je vois. Alors,
donc, voilà le premier récit que je voulais faire. Et puis maintenant, je vais passer au second.
Allons-y.
Avez-vous des commentaires ?
Non, je les donne en même temps. Hein. Je trouve ça, ouais, c'est juste. Hein. Moi, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Hein. Tout ça, faut que ça... Non, mais c'est très bien. C'est cette présence des animaux, présence animale. Moi, ça fait peu de temps que j'ai un chien. Je peux m'apercevoir que des fois... il m'avertit. Je sais pas si c'est des avertissements, mais en tout cas, il est là. Je sens, il est présent, il est à côté de moi à des moments où il n'a pas l'habitude d'y être. Et pourtant, c'est des moments où j'en ai besoin inconsciemment. Et il vient. Et j'essaie justement de faire attention à tous ces signes. Et je m'aperçois qu'en réalité, oui, c'est pas pour rien que le chien va venir près de moi à ce moment-là. Bon, je n'ai plus d'exemple parce que c'est des trucs qui ne valent pas le coup. Hein, mais...
Psychopompe,
oui, c'est ça, oui.
Celui qui conduit l'homme de l'obscurité de la nuit, de la vie terrestre vers la lumière de l'autre monde, hein. C'est ça.
Oui.
Hein. Votre but, hein, vers la lumière.
Ok.
Hein. Mais je pense que les gens, les auditeurs, on connaît ça déjà, mais ce que je veux dire, faire un effort pour observer ces animaux comme vous venez de le faire.
Oui.
Parce que je suis entièrement d'accord avec vous.
Oui.
Ils nous avertissent, ils nous.
Oui. En plus, on les traite mal des fois. Oh bon.
Ils ont une appréhension du danger qu'ils nous transmettent.
Ouais, c'est ça. Et peut-être même que si il peut arriver à l'humanité de maltraiter les animaux, justement parce que ils leur rappellent, ils leur montrent, ils nous montrent, parce qu'on est tous humains ici. Il nous montre que des choses vers lesquelles on n'a pas envie d'aller.
Absolument.
Hein, peut-être ça.
La barge russe. Quotidiennement. Avec Johnny Chief Beck. Sur JTFM.